chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à votre émission littéraire à CISM en direct pour 2 heures. Aujourd'hui, il y aura Jean-François Spritzigo dans le cadre du Festival international de la littérature à Montréal qui va venir nous présenter son texte de À l'infini nous rassembler. De mon côté, j'ai envie qu'on commence tout de suite avec cette discussion que j'ai eue hier avec Jean-François Spritzigo. Jean-François Spritzigo, c'est un auteur, mais c'est aussi avant tout un artiste visuel. Il a travaillé beaucoup la photographie, la vidéo, même la musique. Il fait partie d'un... C'est l'artiste associé avec Centre 4 Paris, qui est un centre d'art. Et il a présenté un projet qui s'appelle « À l'infini nous rassembler », où il est sur la scène avec la comédienne Anna Mouglalis, et des projections et des musiques et un univers aussi sensoriel. Cette pièce est présentée cette semaine, ce samedi et ce dimanche, à l'usine C, dans le cadre du Festival international de la littérature de Montréal. Si vous n'avez pas encore été à des spectacles, je vous invite fort à y aller. C'est toute cette semaine et ça se termine ce week-end. À l'infini nous rassembler, c'est assez intéressant comme proposition parce que c'est vraiment une proposition sensorielle qui se questionne un peu sur comme espèce de chorégraphie de notre vie, notre interrelation entre les humains, mais aussi entre la nature, tout ça. Donc, il y a vraiment des choses très intéressantes qui sont proposées dans cette pièce à l'infini nous rassembler. Et parce que j'avais envie de rajouter du contenu, pas juste faire une entrevue traditionnelle, ce qui va se passer, c'est que ça va être comme une mise en lecture commentée. Jean-François Spritzigo va lire 2 extraits de son texte et il va par la suite commenter lui-même la proposition, qu'est-ce qu'il a voulu dire, comment il a abordé la mise en scène de cette partie de ce texte-là. C'est un essai qu'on fait ici à l'émission Les Herbes Folles sur comment ça peut se passer si on commentait des mises en lecture directement en live. Alors, ça va être avec Jean-François Spritzigo qu'on essaie cette proposition radiophonique. Je vous la mets juste à l'instant. Ça sera en 2 parties. Partie 1, première mise en lecture, commentaire. Il y aura une chanson, puis ensuite, je vous mettrai la deuxième partie, sa deuxième mise en lecture avec la deuxième partie de son commentaire. Dans le cadre de l'édition 2019 du FIL, Festival international de la littérature de Montréal, aujourd'hui, on reçoit Jean-François Spritzigo qui nous présente une pièce assez intéressante qui mêle le toi, le moi, qui mêle la nature également, qui est toute une réflexion aussi sur comment des êtres peuvent s'entrelacer. Mais des êtres, on parle pas juste aussi des êtres humains, on va plus loin que ça, on parle des animaux, de la nature. C'est assez intéressant sa réflexion, il était avec moi pour nous en parler. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
C'est une pièce qui sera présentée sous peu, je crois, c'est cette semaine au fil que ça sera présenté ça s'appelle À l'infini nous rassembler, c'est à l'usine C, samedi le 28 septembre et dimanche le 29 septembre, les 2 représentations sont à 15h. Jean-François, pour être capable de vraiment se mettre dans le bain, ici à l'émission, on a décidé de vous laisser la parole. Vous allez nous lire 3 extraits de la pièce qu'on va ensuite commenter ensemble, que vous allez commenter sur l'univers aussi, sur la scène, qu'est-ce qui va se passer sur la scène, comment vous avez pensé la pièce, quels sont le processus de création, les émotions, les intentions de mise en scène qui transcendent votre texte. Voilà, donc je vous laisse la parole pour ce premier extrait que vous allez expliquer par la suite, ça va être plus agréable, comme ça on va se laisser immerger dans le texte, puis ensuite on va vous laisser le commenter.
Cher toi, je t'écris de si loin. Peut-être te parviendra la légende d'avant mon histoire. J'ai d'abord voulu t'envoyer des photos, mais il manquait le vent aux images. Et sans le souffle ici, tu n'y vois rien. Cher moi, j'ai grandi sous un ciel d'orage. Une pluie fine dessinait mes pas. En ces paysages d'illusions, j'ai garé le fil de mon existence. Un soir, l'instant fébrile se fit déluge. Emporté par le vent des autres, moi avais disparu. Nous étions désunis, fragmentés dans nos vies, sans autre intention que celle accordée à nos craintes. L'espace alentour désormais muselé en nous-mêmes, l'autre fut condamné à l'impasse du quant à soi. Je finis par rencontrer le destin, celui de n'en être aucun autre que celui du vent sur la peau. À marcher vers ailleurs, la solitude devient un privilège, l'audace une promesse. Libérée des attentes, la rencontre émerge enfin. Fugaces empreintes, vagues isolées dans l'infini des océans, animaux flamboyants au souffle de leur salutaire sauvagerie, et tant d'humains particuliers, cependant si semblables. Chacun ensemble, retrouvons-nous. Cher toi, hier encore j'ai vu le ciel s'embraser, la morsure de la nuit dévorait l'hégémonie du jour avant de disparaître dans la gueule du soir. Cela a pris le temps d'un souvenir sans que jamais je n'ai pu distinguer clairement où s'établissait la ligne de rupture. C'est peut-être ça l'harmonie. Considérer le tout sans dissocier ses parties apparentes. Il avait suffi de lever les yeux. Cher moi, t'ai-je dit que je n'étais pas seul ? Ça n'empêche pas la solitude, bien sûr. C'est la discipline. Un peu. Il est toujours imprudent d'écrire sur autrui. Cependant, tu sais ce que je pense de la prudence. C'est la béquille de ceux qui ont trop à perdre pour oser partager. Même si je ne vaux guère mieux, j'apprends à cesser d'accumuler. Il me reste encore tant de tout ce trop, de vanité en manque de confiance pour enfin ne plus partager que la peau. Voici le premier extrait.
C'est assez intéressant parce que j'ai l'impression, en l'écoutant, que le toi et le moi, qui sont à la fois séparés, s'entremêlent. Mais là, il faut savoir qu'il y aura une autre personne sur la scène aussi pour interpréter le toi. Et vous allez interpréter le moi, mais cette dualité entre les deux, comment s'est installée, disons, la division, mais aussi le rassemble? Quelle est votre démarche de création dans la division du toi et moi?
Le toi et moi, je l'envisage effectivement... À brûle pour point, on pourrait penser que c'est une division, mais en fait, c'est une union, profondément. C'est l'union de ce qu'on désire être et de ce qu'on est déjà. Et pour moi, il y a une notion importante, c'est que, depuis que je suis tout petit, j'entends partout qu'il faut être unique. On dit souvent qu'il faut prétendre à être unique. Et je crois que c'est tout à fait illusoire de vouloir être unique. Ce qui compte, c'est d'être dans l'unicité. Quand on est dans l'unicité, on a conscience que la vie est quelque chose de plus grand que nous, mais pas pour nous écraser, mais pour nous hisser à l'endroit d'où voir enfin l'horizon dégagé de tous les nuages liés à l'imaginaire, de toutes les problématiques qui sont les directes conséquences des inventions de nos peurs. Mmh. Et ce toi et ce moi, en l'occurrence, j'ai souhaité qu'ils soient coordonnés, s'il fallait mettre une séparation,
oui,
par ce qui nous donne le souffle de vie, c'est-à-dire le masculin, le féminin. En ce sens, Anna Mouglalis était pour moi, au-delà de l'être la personne la plus adaptée, maintenant encore davantage que je l'ai eu le bonheur de l'entendre, elle amène à ce féminin une notion qui me plaît infiniment, c'est une sauvagerie. Et souvent, la part sauvage est considérée comme quelque chose de nuisible, alors que profondément, la part sauvage est la seule qui permet au monde de se ressourcer, en fait, qui permet aux choses détruites de réensemencer un devenir, mais si pas meilleur, en tout cas plus vif. Et ce toi et ce moi, c'est une espèce de tentative de rassembler la part sauvage qui s'inscrit dans ce masculin et ce féminin, dont les racines ne sont pas culturelles, elles sont vraiment... Je ne cherche pas à opposer le culturel et le naturel, mais je crois que le naturel contient d'emblée la part spirituelle, mettez le terme que vous voulez, je n'ai pas d'obédience religieuse, mais pour autant, je pense de plus en plus que le culturel manichéen et souvent matérialiste dans lequel on essaie de nous enchasser nous pousse à la division.
Oui.
Et je pense que la part sauvage revient à cette idée d'unicité. Une fleur ne meurt jamais. Elle ne disparaît que pour repousser. Et cette tranquillité-là amène le monde de la non-séparation, qui est fondamentalement les enjeux de ce spectacle, à l'infini nous rassembler. C'est d'envisager, on peut lire le titre de différentes façons, mais c'est que quoi qu'il en soit, nous serons enlacés un jour ou l'autre.
Oui, dans une espèce d'unicité, mais c'est drôle que vous parlez dans l'assement, mais en même temps, dans le texte, j'ai semblé aussi qu'il y avait beaucoup de solitude. Vous abordez la question de la solitude. Sommes-nous seuls et enlacés? Quelle est cette différence entre la solitude? Pourquoi aborder la solitude quand on veut parler d'un ensemble qui se tient?
Parce que je crois qu'intégrer la solitude à l'amplitude de notre être, c'est précisément permettre le partage. Tant qu'on n'assume pas cette part de solitude en nous, on est dans une forme d'autorité envers notre environnement, qu'il soit familial, social, naturel, peu importe. On lui impose de combler un manque. Et ce manque, par définition, est incomblable, vu qu'il est issu d'une peur. Et oui. Vous savez, j'ignore qui a dit cette phrase, mais je me la suis faite mienne parce que je la trouve très belle. Quelqu'un a dit « Au fond de toutes les peurs, il n'y a que de la peur ». Donc vous ne trouverez aucun socle rationnel pour justifier ça. Après, vous pouvez faire quantité d'analyses si vous le souhaitez. Et au moment où vous penserez avoir atteint la cause, si vous dézoomez un peu, vous vous rendrez compte que cette cause n'est qu'une conséquence. Et donc c'est sans fin. Et je pense qu'assumer, intégrer cette part de solitude, c'est aussi se rendre compte que la beauté n'est pas à l'extérieur de nous. Qu'elle est dans cette tranquillité, dans cette joie d'être qui consiste ne fût-ce qu'à respirer. Vous savez, c'est un exercice tout simple, mais quand vous êtes seul, souvent on a un sentiment de froid, d'isolement. D'ailleurs, on dit la chaleur humaine. Et donc il faudrait se confronter à d'autres groupes. Mais rendez-vous compte, par le seul exercice de votre respiration, quand vous inspirez, l'air est frais, au moment d'expirer, vous avez réchauffé l'air. Ça veut vraiment dire pour moi que ce petit miracle appartient à la pleine conscience d'être présent et que tout ce que vous allez ajouter qui est issu de votre imaginaire, de votre mental... Quand je dis imaginaire, souvent, ce mot est adossé à une notion extrêmement positive et j'avoue que je le délivre un peu de tout cet attachement. Pour moi, l'imaginaire est le territoire le plus pauvre de l'être humain parce qu'il consiste à ne fonctionner que sur des associations du passé. Vous ne pouvez pas imaginer le bleu si vous n'avez pas vu auparavant la couleur bleue. Et donc, fondamentalement, pour moi, se réfugier dans son imaginaire, c'est infantile. C'est la part triste de l'enfance. L'enfance est belle. Être infantile, c'est répéter sans y croire une espèce de mantra qu'on n'a plus en soi. Et donc quand je dis que cette solitude nous permet de vivre pleinement le réel, la liberté c'est le réel, c'est pas votre imaginaire. Parce que les vraies potentialités qui sont vôtres n'appartiennent qu'à votre capacité à intégrer la situation qui se présente. Et à ce moment-là, aussi intelligente que vous soyez, vous n'avez pas anticipé ni le rire, ni vos larmes. C'est quand même la preuve que ce qui vous dépasse, ce qui vous submerge, et ce qui vous permet avant tout d'être une boussole de vos profondeurs intérieures, appartient à un champ de l'inconnu. Et je crois que ce champ de l'inconnu se vit dans une forme de solitude qui permet le partage, sans laquelle il n'y a pas de partage.
Et comment on installe tout ça sur une scène? Parce qu'il va y avoir vous, il va y avoir Anna Mouglalis qui va faire l'autre partie du toit, si on peut dire, entre guillemets, et aussi du moins en même temps. Mais il va y avoir aussi des projections, parce que vous avez un parcours en photographie, en vidéo. Et comment on peut installer cet imaginaire sur la scène?
En fait, au départ, effectivement, je ne viens pas du territoire des arts vivants. Et je dois dire que je me suis incroyablement bien entouré. Et ce n'est pas du tout une action que j'attribue à mon discernement, mais j'attribue ça, je pense, à une forme de disponibilité. Et la vie a été généreuse. Tout ça s'est vraiment établi par rapport à l'équipe en entier. Et je vais me permettre de donner leur nom. Il y a Anna, bien sûr, qui amène cette part sauvage, insensée, déraisonnable, mais pas sans raison. Anna amène tout ce féminin qui, si je peux l'appréhender, m'échappe parce que le véhicule organique qui est le mien est ce véhicule masculin qui n'empêche pas la perméabilité vers l'autre, bien sûr, mais elle m'a amené pas un niveau de compréhension mais un niveau de tactilité, de sensualité que je ne pouvais pas anticiper. Il y a à la création sonore Fabrice Snow, qui a lui aussi amené sa propre perspective. La création lumière a été assumée par Pierre Colomer. C'est Jimus Leroy qui va faire les réglages, une fois ici à Montréal. Et il y a aussi Joseph Nadj, pour ce qui concerne la partie danse. Pardonnez-moi, tout ça semble décousu, mais ce caractère décousu appartient vraiment au cheminement de cette création. C'est-à-dire que, de la même façon qu'un kaléidoscope vous permet d'avoir la lumière blanche sans qu'on puisse le soupçonner, étant donné que vous avez toutes ces couleurs différentes, il a fallu que je laisse faire cette pensée fragmentaire. La pensée fragmentaire, pour moi, c'est en fait la notion la plus proche de notre instinct de vérité, étant donné que c'est le processus organique, naturel, c'est-à-dire que ce qui vous amène à penser à quelque chose, ça n'est pas un déroulement logique, c'est souvent autre chose. Mmh. Et cette création, au départ, j'avais écrit beaucoup. Je crois qu'avoir jeté au moins 2/3 de ce qui... Il y a 1/3 qui apparaît dans le spectacle. Et pour la confidence, qui n'en sera plus une, mais au moment où il a fallu assembler ça, au départ, je cherchais, parce que je suis absolument comme tout le monde, donc je cherche à me rassurer à travers des liens logiques qui permettent à mon mental de se flatter, de se prétendre intelligent. J'avais créé donc des liaisons intelligentes. Et je me rendais compte que ça ne fonctionnait pas. Alors, ce que j'ai fait dans l'atelier que j'occupais au 104 à Paris, où la création a eu lieu pour la première fois, j'ai déroulé tout le texte sur le sol et j'ai travaillé de façon visuelle. Je regardais sans lire, je me disais « Ah, là, il y a trop. Ah, là, c'est bien, il y a de l'air. Là, je peux respirer. » Donc, ça, je garde, ça, j'enlève. Les vidéos sont venues naturellement parce qu'effectivement, le langage de l'image est un langage dans lequel je m'épanouis relativement bien, dans lequel je peux trouver une relation au monde qui échappe au verbal et donc qui permet d'attribuer d'autres notions. Et ça s'est placé, en fait, je ne peux pas justifier pendant le processus comment les éléments se sont agencés les uns vers les autres. Ça serait vous mentir, ça serait vraiment faire un excès de vanité. Par contre, ce qui était étonnant, j'en parlais avec Anna, c'est qu'à l'issue, je peux justifier intellectuellement l'ensemble des propositions. Comme si, vous voyez, de la même façon dans les territoires où le mental n'a pas de mainmise, où enfin vous êtes dans l'élan vital de ce que vous avez à amener au monde, sans être trivial, dans la relation charnelle, quand on fait l'amour, vous avez remarqué, il n'y a pas un plan où on se dit « je mets ma main là, puis ici, puis je vais embrasser là ». Il y a une espèce de chorégraphie non concertée, mais pourtant tout entière faite d'évidence, quand on est dans l'amour. Donc je parle bien de cette perspective d'amour. Et je pense que la création... Enfin, c'est pas tant je pense, c'est je constate que la création, en cela, est un acte d'amour. Et un acte d'émancipation au sens où ça n'est pas l'autorité de ma décision sur mon geste qui donne au geste sa coloration, c'est l'élan du geste qui trouve lui-même son propre point d'équilibre. Et ainsi, le déroulé peut se faire, bien sûr c'est moins flatteur parce que ça ne flatte pas vos...
Toujours en direct avec votre émission littéraire Les Herbes Folles. C'est la deuxième partie de cette discussion avec Jean-François Sprissigo qui commence dans quelques instants. Vous excuserez le petit fade-out dans la première partie de son commentaire vers la chanson. Rassurez-vous, on a manqué que quelques mots. Et là, je vous mets cette deuxième partie de la discussion autour de sa pièce qui s'appelle « À l'infini nous rassembler » qui sera présentée ce week-end à l'Usine C dans le cadre du Fil 2019.
Ça y est, maman vient de me l'annoncer. J'attends une sœur ou un frère. Elle est venue dans ma chambre et m'a pris la main pour m'en parler. Oh, ben mes doigts dans les siens, ben j'écoutais. Elle est repartie après m'avoir déposé un baiser sur le front sous lequel je réfléchissais déjà. J'ai ainsi passé la fin de la journée derrière la fenêtre, à guetter. Personne n'est venu. Enfin, j'ai pas vraiment été surpris du retard. Si le bébé s'est pas encore décidé à être une fille ou un garçon, ben c'est normal qu'il prenne son temps. Mais je pensais tout de même pas autant. Nous sommes en février. Et ben maman l'attend pas avant septembre. Je suis revenu dans le salon avec un atlas, mais j'ai demandé d'où il venait pour arriver si tard dans l'année. Ma question eut l'air de la surprendre, alors que j'avais déjà pris soin de préciser que ça devait être forcément au-delà de l'Europe. Je l'avais même interrogé papa des yeux quand je lui suggérais timidement l'Afrique. Face au silence de mes parents, je me risquais à avancer l'hypothèse de Pluton, Neptune ou même Mars, mais aucune planète ne sembla suffisamment éloignée car ils eurent beaucoup de peine à camoufler leur rire. Papa me demanda si j'avais pas appris ça à l'école et il m'assit sur ses genoux. Alors, les genoux, c'est égal quelque chose d'important à me dire. La nuit arriva. Je gagnais ma chambre, une feuille enroulée dans la main. J'avais dessiné avec papa les différentes origines possibles de la venue de mon frère ou ma sœur ou d'un ours polaire, on peut rêver. Mais la plupart étaient barrés d'un large trait. Au final, il n'y en avait qu'une. J'ai d'ailleurs été bien ennuyé d'avoir à raturer toutes mes belles planètes et me dire que c'est pas demain que je partirai dans l'espace. En fait, c'est pas d'une région ou d'un lieu que viennent les enfants, et encore moins d'une cigogne ou des légumes. Quand papa a émis l'idée, j'ai eu honte d'avoir fait pipi dans le jardin. Mais de nous. Enfin, quand je dis nous, je veux dire deux. Premièrement, il faut être deux. Un homme et une femme. Enfin, en principe. Une fois les deux personnes réunies, elles doivent s'aimer, au moins beaucoup. Si elles s'aiment vraiment très fort, il peut arriver quelque temps plus tard que la maman prenne des kilos, mais pas trop, hein, d'après maman. Et une fois qu'elle est bien ronde comme un fruit mûr, ben le bébé est là. Ça s'appelle faire l'amour. Avoir leur silence, c'est visiblement pas avec les mots qu'on en parle le mieux.
Je trouve ça intéressant que dans ce cas-ci, l'enfantement soit abordé d'un point de vue d'un enfant lui-même et que ça soit pas nécessairement un adulte qui prend position sur qu'est-ce que l'enfant, c'est qu'est-ce qu'enfanter, qu'est-ce qu'avoir un enfant. Ce choix, est-ce qu'il était aussi réfléchi de votre côté, donc d'aborder cette chorégraphie non préméditée d'avoir un enfant d'un point de vue même de l'enfant?
J'étais parti... Pour cela, Jacques Brel est un papa pour moi. Je ne l'ai pas connu, il est mort un an avant ma naissance. Mais il avait le sentiment que l'enfance n'était pas une notion temporelle, mais une notion géographique. Il disait « on est tous dans un endroit qui s'appelle l'enfance ». Ce qui veut dire que ce territoire est en nous. C'est un territoire qu'on n'a pas quitté. De la même façon, moi je suis né en Belgique, la Belgique n'a pas disparu quand je suis ici à Montréal. Mais pour autant... cette notion de territoire n'est pas une notion invasive, parce qu'elle est directement liée aussi à notre capacité à être présent, à être à cet endroit-là. Que quand on est dans la nostalgie, je crois qu'on est dans ce que nous avons évoqué tout à l'heure, dans une forme d'infantilisme, dans une forme de refus du présent. Mmh. C'est-à-dire que soudain, ce qui est devant nous devrait être différent parce que j'ai décidé que mon enfance était rose bonbon, alors que vous savez... Fondamentalement, si je vais questionner votre mémoire sur l'enfance, je ne me permets pas de dire que je vous connais, bien sûr, mais je pense qu'on risque de trouver, plutôt que cette zone rose bonbon dans laquelle on se plaît adulte à qualifier l'enfance, mais on va en fait davantage se retrouver dans une zone d'inquiétude. L'enfance, c'est un territoire d'inquiétude, souvent, où on est entouré d'adultes qui ne nous comprennent pas, qui comprennent rien, en fait. Vous savez... L'étymologie de adulte, c'est adulterum en latin, ce qui veut dire quelqu'un qui n'est pas lui-même. C'est intéressant. L'enfant est profondément lui-même. Je m'étais fait cette réflexion, je n'ai pas eu le loisir d'avoir le privilège d'enfant dans ma vie. J'aime pas dire qu'on a un enfant. Je trouve que c'est très étrange cette formulation.
Oui, tout à fait.
Mais mon frère. Je suis le parrain d'une de ses filles. Et je me souviens, un jour, elle était dans le jardin. Elle avait 3 ans, 4 ans, je ne sais plus. Et mon frère l'appelait. Elena, Elena. Et la petite ne se retournait pas. Et j'observais la scène et je me disais, tiens, est-ce qu'elle fait déjà figure d'insolence envers son père? Et en fait, pas du tout. Elle n'était pas Elena. Elle était la vie tout entière. Elle était le jardin, le vent sur la peau, les nuages, l'herbe verte. elle n'était pas Elena. Il faut vraiment être un adulte renfrogné pour soudain s'identifier à un prénom, à un nom, à une carte d'identité, à une série de numéros. Les enfants sont le monde. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait infiniment touché. Elle n'était pas Elena. Elle était tout. Et il y a ce qui me plaît aussi, vous l'avez probablement expérimenté, quand vous racontez une histoire à un enfant drôle, si vous lui racontez 18 fois, il rira 18 fois. Parce que lui, contrairement à nous, ne s'évertue pas immédiatement quand il vit quelque chose à l'associer à autre chose pour se permettre d'avoir un commentaire sur le fait. Nous, on aime avoir... Vous avez remarqué, quand vous voyez une situation, vous allez vous empresser... Enfin, je dis vous, moi le premier. On va s'empresser de l'associer à quelque chose. Comme ça, on peut commenter. Mmh. Les enfants, non. Ils sont dans cet émerveillement constant. Et dès lors, cette tentative d'approche, de regard sur le monde à travers cet enfant-là, c'était une façon d'essayer de relier ce territoire, cette île en moi de l'enfance, qui est souvent de plus en plus éloignée. Mais d'ailleurs, oui, peut-être que l'enfance, c'est une île, au sens où l'enfant, elle est connectée à rien d'autre qu'elle-même, tout en étant connectée au tout. Oui. Vous voyez?
Est-ce que ça va être possible de faire passer ce message de la spontanéité, de l'instantanéité à des adultes dans la salle? Est-ce qu'ils vont être capables de s'immerger sans faire ce commentaire sur le texte? Parce que vous passez votre message à travers un texte, à travers un auditoire. Comment vous allez réussir? Est-ce que vous y avez pensé?
Réussir, je vous avoue que c'est une quête narcissique dont j'essaie de m'extraire le plus possible, parce qu'on réussit pas toujours par rapport à quelque chose, hein, on réussit toujours sous l'autorité de quelque chose. Donc ça veut dire que même si on l'a réussi, on sera dans la prédation d'une réussite suivante, enfin, c'est sans fin. Non, ce qui m'intéresse, c'est pas de communiquer avec le public, c'est... Si la disponibilité opère, c'est pas de communiquer, c'est de communier. C'est-à-dire à un endroit où chacun va accepter de déposer notre part de rationnel qui nous rassure pour explorer tous ces territoires. Mais évidemment, ici, le texte est isolé strictement dans le champ de ma voix. La présence au plateau... que ça soit Anna, moi, ce que nous formons, ce que le plateau lui-même propose, les projections, c'est autant d'éléments qui, quelque part, viendraient solliciter votre sensualité, votre tactilité. De la même façon, si je vous mets, vous savez, regardez, si je vous montre un paysage magnifique, est-ce que vous allez rencontrer la même sensorialité que si on s'y trouve et que vous sentez la caresse du vent sur votre peau? Que si vous sentez l'appréhension de la mousse sous vos pieds, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je crois que quelque part, les arts vivants, les arts de la scène, offrent cette pluralité-là, de précisément s'affranchir du mode d'emploi, parce que nous allons tenter une stimulation multiple, non pas pour vous convaincre. Ça voudrait dire que je veux communiquer avec vous. Je vois en ce moment à Montréal que les rues sont, pardon pour le terme, mais pollué d'affiches électorales. Oui. Je veux dire, voilà, tout le monde cherche à communiquer, je veux vous convaincre. Moi, je prétends pas vous convaincre. C'est pas que je veux pas vous convaincre, c'est que, un, j'ai pleine conscience de la vulgarité de prétendre vous convaincre, parce que ça donnerait à penser que ce que vous êtes est une réduction de ce que j'ai à vous apporter. J'ai rien à vous apporter. Par contre, on peut partager quelque chose. C'est cette communion.
Et ça passe, j'imagine, par les sens, d'où l'intérêt de mettre des projections en même temps que de la verbalité en même temps qu'un texte, en même temps que la musique, un univers sonore. Est-ce que c'est un essentiel dans ce cas-là, dans votre démarche?
Ah oui, vraiment. Oui. Vraiment, vraiment. C'est là où notamment Fabrice Snow, de la création sonore, intervient. C'est là où il y aura une séquence dansée avec le chorégraphe Joseph Nadj, qui est un monsieur que j'admire. Enfin, c'est pas le monsieur que j'admire beaucoup, c'est sa présence que j'admire beaucoup. Et... tous ces éléments rassemblés permettent effectivement de s'adresser, j'espère bien sûr, à autre chose qu'à votre mental strict.
Et il y a énormément de choses qu'on n'a pas pu aborder aujourd'hui, mais j'invite le public à aller s'immerger assurément dans ce spectacle pour en ressentir toutes les sens et faire partie de cette chorégraphie. J'aime beaucoup le terme chorégraphie. Et vous l'avez dit quand on était en hors-nombre, mais il y a quelque chose de l'ordre de la danse dans votre proposition. Alors, pourquoi ne pas aller danser avec vous sur cette proposition? C'est un projet qui s'appelle « À l'infini, vous rassemblez ». Ça sera présenté samedi 28 septembre à 15h et dimanche le 29 septembre à 15h à l'usine C. Vraiment très intéressant. Jean-François Zubrissilou, merci infiniment.